émission, l'écran radiophonique vous présente un scénario de Jean-Pierre Junier. De Sainte-Croix. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Chez monter à cheval, son père lui dit, oui, un peu. Se fait mener en voiture. Puis, au champ clos, là, il retrouve l'or. Comme il hésite à monter à cheval, elle lui conseille de prendre des cours. Et tous les matins, il se revoit. Quelques leçons, il a réappris à monter. Ils font des courses-vol dans la campagne. Le temps passe. Il est de plus en plus amoureux et veut penser à son avenir. Il demande à ses parents ce qu'il pensait faire. Son père lui dit, tu voulais poursuivre tes études pour faire littérature, pour être professeur. Je veux reprendre mes études. Avant, remets-toi dans tes cahiers. C'est ce qu'il fait. Thank you. il aime tellement qu'il décide de lui demander sa main. Au matin, ils ont arrêté leur course et se sont assis dans l'herbe. Il lui dit : Je vous aime, Laure, et désire vous épouser. Elle lui dit : Je suis très touchée de ce que vous me dites. Moi aussi, je vous aime. Si vous le voulez, nous pourrons annoncer nos fiançailles à nos familles. Il lui dit : Oui, je veux bien. Il annonce à ses parents qu'il vient de se fiancer avec Laure. Son père lui dit : Vous vous marierez lorsque vous aurez une profession. Les parents sont heureux, car c'est la preuve pour eux que leur fils est guéri. Il annonce au médecin qui leur dit : L'amour est un bon remède, mais attention, il est encore très fragile. Les jours passent, il se voit tous les jours et a repris ses cours qu'il prend par correspondance. C'est dur pour lui, car il faut qu'il reprenne tout à zéro. Il a des difficultés à se souvenir de certains auteurs, et pour cela, il est forcé à lire beaucoup. Quelquefois, il a l'impression que sa tête explose, mais il tient bon pour l'amour de Laure. Le temps passe. Il est très heureux, malgré qu'il ne se souvienne de rien, absolument rien de son passé. Il dit à sa fiancée : Je suis tellement heureux au présent que le passé ne m'intéresse pas. À quoi bon se souvenir de choses sans importance ? Quelquefois, le taquine : Tu te souviens même pas de tes plus anciennes petites amies ? Non. C'est pas gentil pour elles, tu ne trouves pas ? Je m'en moque. Il a repris des forces et se sent bien, très bien. Il ne sait pourquoi, mais il est attiré par la lumière, la clarté, tout ce qui est lumineux, et n'aime pas les couleurs sombres, ternes, la nuit non plus. Un matin, qu'il met une ancienne veste, nous sommes en automne, et cette veste est chaude en laine. Il sent dans sa poche un carton. Il le prend. Il voit que c'est une photographie noire et blanc d'une jeune fille blonde, le corps de côté, la tête face à l'objectif. Elle a un visage très doux, pur. Il sait pourquoi, mais cette photo le trouble. Qui est-ce ? Il retourne la photographie et voit qu'il est marqué au stylo en billes bleues un prénom, Eurydice. Il ne sait pas qui ça peut être, ne comprend pas. Sans doute une personne que j'ai connue avant, mais il ne peut s'empêcher de la trouver très belle. Thank you. Toto le laisse songeur. Il essaie de voir dans sa mémoire s'il ne reste pas quelque chose de son passé. Il passe des heures à chercher, à voir quelque chose en lui, que cette photo fait partie d'une autre vie qu'il a connue. Force de réfléchir, il a l'impression d'avoir été un autre. Qui suis-je ? Qui suis-je vraiment ? Et si j'étais un autre ? Et si ma famille n'était pas ma famille ? Cette jeune fille, peut-être est-ce elle que j'aime vraiment ? Mais son cerveau plein de vie lui dit d'arrêter de se poser des questions, de d'être heureux au présent. Comme il le disait, il oublie, il doit oublier cette photo, absolument l'oublier. Oui, je me pose trop de questions. Au diable passé, et il met la photographie dans un tiroir. Le temps passe, il oublie l'incident, il est de nouveau heureux. Un jour, il doit aller en ville s'acheter des livres et décide d'y aller seul. Il n'aime pas aller en ville, il a besoin d'espace. Et les rues, les maisons, la foule lui donnent l'impression d'étouffer. Il n'a pas voulu que son père le mène pour ne pas le déranger. Il a pris l'autocar. C'est l'automne et il fait encore chaud. Il entre dans une librairie. Avec une liste à acheter des livres. Il y a beaucoup de livres à acheter car il a toute son éducation à refaire. Donne la liste au vendeur, prend quelques livres qu'il veut en premier et demande qu'on lui envoie les autres par transporteur. Une fois sorti de la librairie, il entre dans un salon de thé. Prendre un café avec quelques croissants. Une demi-heure plus tard, il quitte le salon de thé. Et décide d'aller chez le bijoutier choisir la bague de fiançailles. Chez le bijoutier, il ne sait quoi prendre. Et dit au vendeur, choisissez vous-même, moi les bijoux, j'y connais rien. Et le prix, monsieur ? Un prix correct, mais pas trop bas. Bien, monsieur. Une fois le bijou choisi, il dit au bijoutier de le faire livrer chez lui et quitte la bijouterie. Puis, il se retrouve dehors. Le soir commence à tomber. Tout à coup, il voit devant lui une femme. Il est comme paralysé et croit la reconnaître. Elle ressemble à la jeune fille de la photo qu'il avait trouvée dans sa veste. La jeune fille parle à un homme. Frédéric reste près d'eux. L'homme dit « Au revoir, mademoiselle Eurydice ». Il n'y a plus de doute, c'est bien elle. L'homme s'éloigne, Eurydice continue son chemin. Frédéric décide de la suivre. Il a à la fois peur et curieux de savoir qui est cette jeune femme. Et pour elle, de connaître ce passé étrange où il a vécu dans cette ville. Mais la peur de que tout recommence. Il se sent bien ici. Quelque chose lui dit que peut-être elle va le mener dans ce monde de cauchemar et qu'il ne pourra plus s'en sortir. Mais la curiosité l'emporte. Il faut qu'il la suive. Et puis, il a eu et a peur d'avoir encore un faible pour elle, pour sa beauté. D'un pas rapide, pour en finir et se jeter à l'eau, il la rattrape. Mademoiselle Eurydice le regarde, surprise, comme si elle ne comprenait pas. Je suis le locataire qui a pris votre chambre que vous aviez à la ville de l'Orfer. Il fronce ses sourcils. Comment voulez-vous? J'ai un accident. J'ai perdu la mémoire pendant quelque temps. Puis je me suis souvenu de la ville. Mais tous me disent que je n'ai jamais été là-bas. Et pourtant, je me souviens très bien de ce que j'ai vécu là-bas. Les crimes. Vous que l'on croyait enlever ou assassiner. Toutes ces énigmes. La porte condamnée de la chambre. Le sang. Les bruits. Et vous que je reconnais. Parce que j'ai retrouvé votre photographie dans mes poches. Expliquez-moi tout ça. Je deviens fou. Vous êtes là. Cela ne vous suffit pas? Non. Je veux savoir. Et ne vous lâcherai pas. Il vous faut oublier. Sinon vous êtes perdu. Pourquoi? Pourquoi a-t-on dit que vous étiez morte? Que faites-vous ici? Et moi, comment suis-je revenu ici? Que cache la ville? Elle le regarde bien et lui dit: je vois qu'il n'y a rien à faire. La ville sera toujours en vous. Venez. Où allons-nous? Chez moi, puisque vous voulez tout connaître. Elle le guide dans un dédale de rue. Ils arrivent au quartier de la vieille ville. Les rues sont plus étroites, les maisons anciennes. Elle le fait entrer dans un vieil immeuble de 3 étages. L'allée est propre, les escaliers sont en pierre. Au 2e étage, elle ouvre une porte. C'est la porte de son appartement. Il n'y a pas de nom sur la porte. Ils entrent directement dans un living. Mur à la chaux. Vitré, meuble, rustique, en bois. Elle le fait asseoir sur un canapé en cuir blanc. Elle lui dit: les hommes sont stupides. Ils veulent tout savoir. Vous voulez boire quelque chose? Un bourbon? Oui, un bourbon. Elle va dans un coin de la pièce, car il y a un bar. Pour prendre un verre et une bouteille. Elle revient, elle met le verre et la bouteille sur une table basse en verre et s'assoit à côté de lui. le serre. Pardonnez-moi, mais je ne le bois pas. Vous verrez, il a un goût un peu spécial, un peu amer, peut-être, mais il est très bon, très bonne qualité. Elle lui tend le verre. Merci. Il boit. C'est vrai, il y a une pointe d'amertume, mais quelque chose fait qu'après une gorgée, l'on ne peut s'en passer. Que faites-vous dans la vie ? Lui demande-t-elle. Je suis étudiant en lettres. En fait, j'essaye de le redevenir. Après mon accident, j'ai tout oublié de ce que j'ai appris. Alors, je lis beaucoup. Prends des cours par correspondance pour rattraper le retard, mais ce n'est pas facile. Vous voulez faire quoi? Quelle profession plus tard? Professeur, j'aimerais me spécialiser dans les lettres modernes. En fait, c'est ce que l'on me dit que j'aimerais faire. Quant à moi, je ne sais pas vraiment. Choisissez vous-même autre chose. Ne faites pas toujours ce que l'on vous dit de faire. Mais je ne sais pas moi-même. Et puis, je suis fiancé. Il faut que je pense à l'avenir maintenant. Il a eu un deuxième verre. Elle lui dit... Oui, vous avez raison. Oubliez le passé. Il lui dit, ce n'est pas facile. Vous tenez vraiment à le savoir? Il dit, oui. Elle s'étire, se lève. Et lui dit, venez. Il prend un verre sur la table. Et il se lève. Elle va ouvrir une porte. J'ai un très grand appartement, vous savez, et elle le guide jusqu'à une porte au fond du couloir. Ouvre la porte. Elle lui dit d'une voix très sérieuse, « Entrez !» Puisque vous le voulez tant, il entre. C'est noir. Elle ferme la porte. Et se retrouve dans la chambre. Horrifié, il se retourne. La porte derrière lui est fermée. C'est celle qui est condamnée. Il essaye de l'ouvrir. Prend peur, panique, frappe avec ses poings, en criant, ouvrez, 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 ouvrez. Puis, tombe d'épuisement à terre. Le trou noir. Le froid le réveille. Il voit des pieds dans des charentaises. Ce sont ceux de sa logeuse. Un balai à la main, il lui dit. Qu'est-ce que vous faites à terre au lieu de dormir dans votre lit? Vous avez encore bu? Elle hausse ses épaules. Ramasse la poussière avec son balai et sa pelle. Met dans un seau et sort de la pièce. Il se relève péniblement. Je ne veux pas que ça recommence. Non. J'en ai assez. Il se rue sur la porte pour essayer de l'ouvrir. rien à faire. Il est épuisé, s'affaisse, le dos à la porte et s'assoit à terre. Il met les mains dans sa poche de sa veste et là, il retrouve la photographie de Redis. Le soir est tombé, il décide de sortir, il se lève. Au hasard dans les rues. Il n'est pas surpris de la retrouver aussi noire, triste. La nuit est tombée, il n'y a plus personne dehors. À un tournant d'une rue, il voit apparaître Redis. Elle est loin devant lui. Le bruit de ses pas résonne dans la nuit. Il lui court après. La voit entrer dans l'allée d'un immeuble lugubre. Il entre, lui aussi. Il entend qu'elle monte les escaliers. Il monte ici, puis il n'entend plus rien. Il monte et frappe à toutes les portes. L'immeuble semble inhabité, il est furieux, essoufflé, trouve à terre un couteau de cuisine. Furieux, il le prend et avec donne des coups dans la porte d'un appartement. Il cogne, cogne et le couteau s'enfonce à plusieurs endroits dans le bois. Porte cède, elle s'ouvre. Est tombé à terre un homme, le dos taillardé de coups de couteau. Non, 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 j'en ai assez. Il lâche ce couteau et se sauve en courant. Il entre chez lui essoufflé et voit un homme en bleu de travail qui bricole les robinets de l'évier. Il est grand, fort, les cheveux grisonnants. Qui êtes-vous ? Je suis plombier. Je n'ai pas demandé le plombier. Vous auriez dû. Vous n'avez pas vu qu'il coulait du sang ? Non. Il s'approche. Le plombier ouvre le robinet. Et voit que ça coule rouge. Le plombier lui dit, remarquez, c'est normal, c'est le vendredi saint. Et il ferme le robinet. Non, je plaisante. L'eau est un peu polluée, remarquez, l'on jette n'importe quoi dans le fleuve. Mais il vaut mieux ça que du tartre. Bon, je vous laisse, j'ai fini moi. Prend sa caisse à outils et s'apprête à sortir. Si ça coule encore roule, il faut attendre que ça coagule et faire un garrot. Une fois que le garrot sera fait, prévenez-moi que j'enlève, car ça bouche les tuyaux d'arrivée d'eau. Vous comprenez? Bon, votre logeuse à mon adresse. Et il sort. Dans la nuit, il rêve à du sang sur la neige. Le lendemain matin, après son petit déjeuner, il essaye d'ouvrir la porte. Mais n'y arrive pas. Dans l'après-midi, le téléphone sonne. Oui, c'est Iphigénie. Mon grand-père aimerait vous voir. Il est très mal. Qu'a-t-il? Je pense que c'est le corps. Mais l'on ne sait jamais dans cette ville. Il est très mal, vous savez. Je vous en prie. Il veut vous voir. Pouvez-vous venir le plus vite possible? J'arrive. Je vous attends. Et il met sa veste et sort de la chambre tout de suite. Il sonne à l'appartement d'Iphigénie. C'est elle qui lui a ouvert. Elle est en robe noire, a les yeux rougis. Entrez, je vous en prie. Suivez-moi. Il longe un long couloir sombre. Elle frappe à une porte. Elle lui dit, entrez. Il entre. Elle aussi. La pièce est sombre et grande. Les volets sont fermés, les rideaux tendus, un grand lit où se trouve le malade. Sur une table de nuit, une lampe de chevet qui seule éclaire la pièce. Il lui dit, il n'y a pas de médecin, d'infirmière. Pour lui, dans cette ville, vous vous moquez. Approchez-vous. Il s'approche pour se mettre sur le côté droit. Le malade est très pâle, seuls ses yeux semblent encore en vie. Il dit, vous êtes la Frédéric? Oui, monsieur. C'est bien, écoutez-moi bien. Je vais mourir. Vous allez prendre le dossier que j'ai commencé à faire sur les origines de la ville, qui sont dans mon bureau. Ma fille vous le donnera, n'est-ce pas, petite? Oui, père. C'est vous qui devez faire les recherches pour
ensorceler la ville et ses habitants, et vous librera en même temps. J'ai trouvé quelque chose essentiel que j'ai pu mettre sur le dossier, c'est que...
Il reste la bouche grande ouverte, les yeux fixes. Monsieur, père. Elle se penche, lui touche le visage. Oh, père, il est mort. Mon Dieu, tout est fini. Nous sommes à jamais prisonniers. Père, mon Dieu. Elle lui ferme les yeux. Faisons une petite prière si vous le voulez bien. Il se met à prier en silence. Puis elle lui dit, venez, allons au salon. Il la suit. Elle l'a menée au salon et s'assoit sur des chaises l'un en face de l'autre. Il lui demande, vous n'appelez pas un médecin? Demain matin, il est mort. Ils le savent déjà. Qu'allez-vous faire maintenant? Continuez à vivre. Ici? Oui, ici. Où irai-je? Vous n'avez pas de famille? Non. Vous avez un travail? J'ai une petite rente que me fait quelques immeubles loués. Je serai bien seul. Ne m'abandonnez pas. Non, je vous le promets. Elle essaye de sourire et lui dit, vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Cela fait longtemps que je voulais vous voir, mais où étiez-vous? C'est une longue histoire. Elle lui dit, nous avons toute la soirée. Et il commence à lui conter ce qui lui est arrivé. Puis, comment se fait-il que je sois retourné ici? Et que faisais? Ou pourquoi ai-je retrouvé la locataire là-bas? Comment sortir de ce cauchemar? Elle se lève et lui dit, allons chercher le dossier de mon grand-père. Il se lève et ils sortent de la pièce. Elle le mène dans le bureau en pierre de son grand-père. Va ouvrir un tiroir. On a sorti une serviette en maroquin marron. Voilà, c'est le dossier. Elle le lui tend et ferme le tiroir. Elle lui dit, mon grand-père cherchait la solution pour sortir de ce cauchemar. Il a trouvé des choses très intéressantes. Maintenant, c'est à vous de continuer l'enquête. Venez, ils sortent du bureau. Et elle lui dit, il vous faut partir, ils ne doivent pas vous voir dans cette maison. Ce dossier, votre vie nous est précieux. Vous ne devez pas prendre de risques. Elle le mène vers la sortie. Devant la porte, il lui dit, « Nous nous reverrons ? Oui, je vous téléphonerai. étudiez le dossier et travaillez bien. À bientôt. Oui, à bientôt. Et il part. Dehors, le jour pointe. Les rues sont encore vides. Il marche d'un bon pas, la serviette à la main. Il a hâte d'être chez lui pour lire le dossier. Dans une rue étroite, tout à coup, il se sent pris par derrière, par des mains. Il essaye de se défendre. On tient fortement. On tient fortement le Marocain. On lui donne des coups dans le bras. Il fait qu'il fait tomber à terre. On lui donne des coups de pied. Il a mal de partout. Il voit le Marocain qui est à terre, pris par un homme. Un autre lui crie avant de rejoindre son collègue en courant. L'être suprême ne veut pas que vous sachiez certaines choses. Et il se sauve en courant. Frédéric reste KO, mal de partout, saigne un peu aux lèvres, reste un moment sur le sol, puis se relève comme il peut pour entrer chez lui en mauvais état. Il est furieux d'avoir perdu le dossier. Il se dit que c'est fini pour lui. Il entend, de derrière la porte condamnée de sa chambre, des cris, des gémissements. La journée, il téléphone à Iphigénie pour lui raconter le vol. Elle lui dit « Je m'en doutais, tout est recommencé. » La soirée, sa logeuse est entrée chez lui sans frapper. Casserole à la main, elle va la poser sur la table. Et lui dit, il n'y a rien d'autre, c'est le carême. Et elle s'en va. lui va voir la casserole et voit que baigne dans l'eau un rat mort. Il prend la casserole pour aller jeter le contenu à la fenêtre. Il voit sa logeuse ouvrir la fenêtre et lui crier d'en haut : vous n'aurez rien d'autre. Il ferme sa fenêtre. Il va s'allonger. Le lendemain, il sort pour aller à l'université. Il voit que dans les rues, il y a foule. C'est carnaval. Les jeunes gens masqués, haches, couteaux à la main, courent après des gens. Il est pris dans cette foule et ne peut s'éloigner. Il voit avec horreur que des jeunes gens masqués trucident des personnes sur leur passage. Il réussit à se dégager de la foule et à entrer dans une allée. Un petit vieux aussi qui lui dit : ils font cela, c'est pour laisser la place aux nouveaux. Vous comprenez ? Il arrive à sortir de l'allée après une heure d'attente et à rentrer chez lui. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique le scénario original de Jean-Pierre Jugnet de Sainte-Croix, production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.